de louanges pour avoir si magnifiquement pris possession de ces lieux et nous avoir emmenés avec vous auprès du Père. Il y a tellement de choses dans la vie, je pense, enfin, en tout cas pour moi, peut-être je suis le seul, mais peut-être pas, qu'on prend pour acquis, qu'on prend pour qu'on galvaude. C'est tellement génial de pouvoir être réunis ensemble aujourd'hui encore dans ce lieu, d'avoir des gens comme ça doués, qui sont là, qui de tout leur cœur font cela pour, ça participe à tout ce que l'on vit, tout ce que l'on veut vivre, tout ce que l'on veut être et tout ce que l'on veut faire. Donc vraiment, je remercie vraiment Dieu pour ça. Franchement, c'est pas du matérialisme, mais moi, d'être dans une communauté où il y aurait pas comme ça cette profondeur, et en plus, pour le coup, de la bonne musique. Pétard, quand il y avait Luc qui était là avec sa basse, là, qui, je sais pas où il est, qui faisait des petits rythmes, là, je me disais, waouh, déjà, on est dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Mais en plus, il y a des bons rythmes, des trucs qui nous aident vraiment, qui nous propulsent dans la louange. Puis l'adoration, puis sous le poids de la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Oh, quel privilège. Et oui, on la sent, elle est là, la gloire de Dieu. Elle est là, la gloire de Dieu. Merci, Père. Donc, quelques annonces. Pendant que nous sommes encore, même si c'est momentané, sur la terre, il faut faire des annonces. Donc, vous savez, des fois, les choses sont anodines, mais je trouvais ça tellement beau que les enfants doivent passer par là pour aller dans leur super salle. Vous pourrez aller visiter après. Ils ont des salles NEC plus ultra, tout parfait pour les enfants. Ils sont super bien à l'aise. C'est tellement beau parce que, ben voilà, les enfants, quelque part, ils nous conduisent, ils sont devant nous par qui ils sont. Jésus nous dit d'être comme eux. Mais aussi, ils sont, en passant par là, ils sont visibles. Et c'est la réalité de notre communauté. On est une église 50% adultes, 50% enfants, dans un autre sens, j'espère, 100% enfants de Dieu. Mais vraiment, bénissons ces enfants. C'est notre plus grand privilège que d'avoir ces enfants au milieu de nous, de pouvoir, que ce soit les nôtres ou pas d'ailleurs, que ce soit pouvoir les accompagner dans leur destinée. Quel privilège c'est pour nous. Petite annonce pour le week-end de rentrée, donc vous savez, les 16 et 17 septembre prochain. Donc vous allez recevoir demain un email qui vous explique le programme du week-end, mais aussi les détails pratiques. Donc, je vous joindrai en pièce jointe une fiche d'inscription qu'il vous faudra imprimer, remplir et amener avec le règlement sur place. Et sur place, ce sera Carole, qui est chargée de tout ce qui est logistique, intendance, etc., qui récupérera vos inscriptions. Voilà, ça c'est très pratique, mais c'est important. Donc, tout sera expliqué sur l'email, hein, de toute manière. Voilà, et idem va suivre dans un email, alors peut-être pas demain, mais en tout cas dans les prochains jours, le programme de l'Église sur l'année. Donc on va vivre des super choses. Dieu nous a vraiment parlé sur voilà, certaines priorités, des choses qu'il fallait, peut-être des choses qu'on va arrêter et des choses qu'on va commencer ou recommencer en fonction de vraiment ce que Dieu nous a dit pendant l'été avec les responsables. Donc, ce que je peux vous dire dorénavant, je ne crois pas m'avancer en disant qu'on va se régaler cette année ensemble. Ça va être extraordinaire. Voilà, les nouvelles pour le bâtiment, c'est fait. Et on a parlé à plusieurs d'entre vous par rapport à votre implication dans l'Église, tout ça. C'est pas, toutes ces choses-là ne sont pas figées. Mais voilà, maintenant... Sans pression aucune. Je sais que parfois, il faut que je fasse attention parce que moi, j'aime bien agir sous pression, mais beaucoup ce n'est pas le cas de beaucoup de monde. Mais prenez votre temps encore, vraiment, dans la prière, tout ça, mais on est prêt à accueillir maintenant vos réponses. Et c'est bien parce que comme ça permettra d'organiser le reste de l'année pour l'Église. Une précision là-dessus, on a vraiment à cœur de ne pas être une communauté qui dépense de l'énergie uniquement à répondre aux besoins qu'il y a dans l'Église. On a vraiment à cœur d'être une Église qui accomplit la mission que Dieu a pour nous, qui marche dans la vision que Dieu nous a donnée. Et parfois, ben, peut-être il y a des choses que ça va prendre plus de temps, parfois d'autres, mais voilà, on ne veut pas, tiens, il y a un besoin, vite, il nous faut une personne. Non, on a à cœur que vous aussi, vous fassiez ce que Dieu vous a appelé à faire. C'est pour ça que je vous dis sans pression, parce qu'on veut mettre la pression sur personne pour faire quelque chose où vous ne sentez pas que le Saint-Esprit vous pousse à faire ça. Parce que si c'est nous qui vous poussons à le faire, franchement, ça sert à rien. Voilà. Donc, mais merci à tous pour déjà tout ce que vous faites. Merci pour les volontaires dans tous les domaines de l'Église. Voilà. Et donc, sans transition, le petit message d'aujourd'hui, petit message que j'ai intitulé « Gloire, connexion et amour de son prochain ». J'avais hésité avec « Amour, gloire et beauté », mais c'était déjà pris. C'était déjà pris. Je me suis dit « Non, ça ne va pas passer ». Alors, excusez-moi, je vais essayer de monter ce truc. Sinon, c'est pas grave. Sinon, ce n'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Ah, merci, mon ami. Waouh, c'est magnifique. Il y a une abondance de pupitres, c'est incroyable. Donc, merci, mon ami. Alors, d'ailleurs, c'est un secret que je partage avec quelques personnes ici. On va pas chanter tout de suite, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Olivier. Donc, vous gardez-le en mémoire pour qu'en fin de culte, lors de notre petit apéro, parce que visiblement les gâteaux n'ont intéressé personne, lors de notre petit apéro post-culte, nous pourrons nous réjouir de ça, de l'anniversaire de cet homme extraordinaire. Donc, gloire, connexion et amour de son prochain. J'écoutais un message cet été. Cet été, j'ai vécu vraiment des choses fortes avec Dieu. Je suis passé par des mois, et je pense que ça nous arrive à tous, où j'étais pas super bien. Ça allait bien, je veux dire, mais je souffrais d'une espèce de semi-dépression, pas dépression, surtout pas au sens médical et tout, mais une sorte de blues que j'avais même pas en fait réellement réalisé. Et vous savez, des fois, vous réalisez que vous respirez enfin l'air frais qu'une fois que vous avez sorti la tête de l'eau. Et c'est ce que j'ai l'impression d'avoir vécu ces dernières semaines, et ça fait tellement du bien. Et alors qu'un jour que j'écoutais un message, l'orateur de ce message disait, évoquait le chapitre Jean 17, l'épître de Jean, chapitre 17, et il disait vraiment, lisez Jean 17, c'est merveilleux. Je dis, bon, ok. Une fois que le message était terminé, j'ai lu Jean 17, et que j'avais évidemment déjà lu dans le passé, mais Dieu m'a vraiment parlé là-dessus. Ce passage est extraordinaire, c'est vrai, et j'ai vraiment senti Dieu me révéler des choses par rapport à l'Église. Encore une fois, c'est un culte de rentrée, et vraiment c'est tellement important de mettre les bonnes priorités quand on démarre, quand on part, pour mettre vraiment les bonnes bases. Et gloire. Premièrement, gloire, pourquoi ? Alors déjà, je vous lis, alors je ne vais pas vous lire tout Jean 17, cet orateur le faisait, je vous encourage, quand vous rentrez chez vous, lisez Jean 17. Pas forcément pendant que je prêche, parce que c'est, même si Dieu peut vous parler en lisant sur votre Bible, j'ai vraiment à cœur de vous dire ces choses, mais lisez-le, et voilà les versets que j'ai sélectionnés dans ce chapitre. Jean 17, 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc l'heure, en fait, il parle des hommes. Et il parle des hommes qui se sont tournés, il parle surtout des disciples, de ceux qui se sont tournés à Christ, mais aussi ensuite de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Et c'est tellement des versets, je ne sais pas vous, mais moi, que j'ai pu lire depuis l'enfance. Mais des fois, on relit les mêmes passages, pétard, on se rend compte, mais on se dit, mais il y a vraiment des choses incroyables, en fait, dans deux petits versets. La gloire que tu m'as... je leur ai donnée, Jésus nous a donné la gloire que le Père lui avait donnée. Voilà, c'est écrit là. Afin qu'ils soient un, moi en eux et toi en moi. Vous m'avez compris, on va regarder un peu plus en détail. Donc vraiment, il y a cette idée de gloire au début, la gloire que Jésus dit au Père qu'il nous a donnée. Nous qui se sont tournés à lui, nous qui l'avons accepté, nous qui avons placé notre foi, notre confiance en lui. Et la gloire, vraiment, ça m'a... Voilà, Jésus dit, je leur ai donné cette gloire. Et c'est un mot fort quand même, la gloire. J'ai regardé la définition dans ma Bible d'études, il y a une courte définition qui dit qu'on peut la définir par la grandeur et la majesté de Dieu. Le rayonnement sensible que l'on peut sentir, ressentir, de la présence divine. Et la racine hébraïque parle aussi de poids. Il y a un poids de la gloire de Dieu. Et je ne sais pas vous, ça dépend des fois. Moi, personnellement, dans le temps de louange juste avant, par moments, je ressentais, et surtout sur la fin, en fait, juste avant de parler, je sentais ce poids la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de sa grandeur et de sa majesté. On sent comme dans l'atmosphère un poids comme ça qui vient. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand vous êtes dans une conversation avec des amis, quand vous commencez à parler de Dieu, quand vous commencez à dire ce que Dieu vous a révélé, vous sentez, tac, dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui vient. Et là, je le sens. Et vous le sentez, même avec des non-chrétiens, tout ça, même souvent avec des non-chrétiens, paf, d'un coup, vous sentez, il se passe quelque chose dans l'atmosphère. C'est la gloire de Dieu. Et vous savez que cette gloire, nous en étions privés, de par notre nature de pécheurs, nous en étions privés. Romains 3, 23, verset très connu, tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et, il y aurait pu avoir, mais, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, dans notre état pré-conversion, on était privé de cette gloire. Il y avait cette séparation qui était de fait depuis la chute d'Adam entre nous et Dieu. Et du coup, on était privé de recevoir ce cadeau, cette gloire que Jésus nous donne. Mais grâce à la mort de Jésus sur la croix, il nous permet d'avoir accès à tout ce qui était prévu pour nous, la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, je te dis, chacun de vous, je te dis, tu n'es destiné à rien d'autre qu'à la gloire de Dieu. Tu l'as déjà, c'est un fait, c'est écrit noir sur blanc, mais c'est le but, c'est un des buts de ta vie. Donc ne nous satisfaisons pas d'autre chose. C'est dans la présence de Dieu que sa gloire vient sur nous, qu'il nous revêt de sa gloire. Verset 5, il était du même chapitre, du chapitre 17, verset 5, dit « Père, revêt-moi de gloire en ta présence. » Là, c'est Jésus qui parle à son Père. Il est dans cette discussion. Vous savez, c'est quelques moments avant sa crucifixion. Donc, il est un peu dans cette discussion avec son Père où il fait un peu un bilan de ce qu'il a fait sur la terre depuis qu'il est venu. Et il y a cette discussion très intime, vous le verrez quand vous le lisez, entre le Fils et le Père. C'est tellement magnifique, cette discussion proche entre un Fils et un Père. Il se trouve que le Père, c'est le Père des Lumières. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Je pense qu'à ce moment-là, Jésus avait particulièrement besoin d'être revêtu de la gloire de son Père, vu ce qui lui attendait dans les heures qui venaient. Donc nous, c'est pareil. Jésus le demande à Dieu, et nous, je pense que c'est pour nous. C'est vraiment la clé, c'est vraiment la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu est là. Mais c'est vrai que par notre attitude de cœur, par tout ça, ben, des fois, malheureusement, on peut nous-mêmes se fermer à ça. Même si Dieu est tout puissant, c'est aussi, hein, il est bon et il ne force pas la porte de nos cœurs. Et du coup, mais vraiment, c'est dans sa présence, c'est revêt-moi de ta gloire en sa présence. Et quand je viens, quand volontairement, je dis Seigneur, viens. Viens, je veux te rencontrer, je suis là pour toi. Seigneur, nous t'accueillons comme à la chanter. Quand on fait ça, c'est des paroles, c'est juste des mots, mais ça parle à nos âmes, à nos cœurs, nos esprits sont toujours connectés. Je parle trop vite ? Ah, pardon. Et c'est là que, quand je suis ouvert, la gloire de Dieu vient. Waouh ! Merci Seigneur pour ta gloire. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Et une autre traduction dit, nous reflétons la gloire de Dieu. Un peu comme Moïse, vous savez, qui, face à la gloire de Dieu, son visage était transformé, il était obligé de se couvrir. Nous avons un accès illimité. On n'est pas obligé de se couvrir. On peut être face à face. On peut refléter comme dans un miroir. Quand on reflète comme dans un miroir, ça veut dire qu'on est en contact direct. La lune étant en contact direct avec le soleil, elle reflète le soleil. C'est pour ça qu'elle brille. Et nous, c'est pareil. Nous sommes en face à face avec Dieu. On a cet accès-là. Le voile a été déchiré. Et du coup, on peut refléter cette gloire. Des fois, tous les jours, on n'a pas forcément l'impression de refléter la gloire de Dieu. Des fois, on se lève le matin, on est de mauvaise humeur. Moi, ça m'arrive assez souvent d'être de mauvaise humeur. Pour ceux qui me connaissent vraiment, vous le savez. On n'a pas vraiment l'impression de refléter la gloire de Dieu. Mais c'est quelque chose qui est là, qui est à nous, qui est pour nous. Il nous l'a donné, comme on l'a lu. C'est tout le temps là. Et la gloire de Dieu se manifeste. Elle a des fruits, des manifestations dans notre quotidien. Des signes, vous savez, les signes et les prodiges, les miracles, les signes du royaume de Dieu qui est présent et qui est à venir, ce royaume dont Dieu dit qu'il est si proche, parce qu'il est là et il est en train d'arriver. Et j'ai fait un copier-coller pour ceux qui ont WhatsApp, vous l'aurez déjà lu, qui sont sur les groupes WhatsApp de l'Église. Si je vous ai oublié, je vous présente vraiment mes excuses. Si vous voulez être sur ces groupes WhatsApp, je vous encourage vivement à y être parce que c'est extraordinaire, autant sur le côté Connect Life, sur la vie de l'Église, que le côté, l'amour en action, où on partage les témoignages de tout ce que Dieu fait. Et j'ai copié-collé un message que Mathias a posté il y a quelques jours. « Hey, je viens de rentrer de Carrefour. » où j'ai pu prier pour un homme qui avait une attelle. Ayant discuté, il m'a dit avoir de l'arthrose, de grosses douleurs d'épaule, de clavicule, plus une hernie. Pétard, le pauvre. J'ai pu prier pour lui et lui témoigner de l'amour de Dieu. Il a dit n'avoir plus mal à l'épaule gauche. Yes ! Et donc j'ai dit, bon, super, on va passer à l'épaule droite. J'ai encore prié et il a dit que c'était maintenant un 3 sur 10. Niveau douleur. Yes ! J'ai prié encore, puis il a détaché son attelle, a dit n'avoir plus mal et était très surpris. Il est reparti content, béni et très reconnaissant. Et là, c'est fou la réaction instinctive. Qu'est-ce qu'écrit Mathias pour terminer ? Gloire à Dieu. Merci papa. Que la gloire soit rendue à Dieu pour tous ses miracles. Et pourquoi on peut lui rendre gloire par tous ses miracles ? Parce qu'il nous a donné sa gloire et donc on peut la refléter. Et tout simplement en imposant les malades, en guérissant les malades comme Jésus a dit, encore une fois, on n'est pas là en train de supplier un Dieu qui est réticent de bien vouloir être bon. Non, on est là en appliquant simplement ce que Dieu a dit. Dieu est bon, veut bénir, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Amen. Donc, elle se manifeste, cette gloire. Sur le groupe WhatsApp, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extraordinaire. Moi, dans mes vies d'église précédentes, je n'ai jamais vu autant de miracles comme ça qui se produisent sur une base, pas quotidienne, mais hebdomadaire en tout cas, quoi. C'est extraordinaire. Dieu agit au milieu de nous. Franchement, les amis, ne soyons pas blasés de ça. Des vies sont en train d'être transformées. Des vies sont en train d'être transformées. Et la louange... Vraiment, quand on est dans sa louange, donc la gloire se manifeste, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Dieu nous a créés humains avec des sensations, des sentiments, des émotions, et il nous donne, même si là, je ne le vois pas tout de suite comme ça, il nous donne de sentir sa présence. Et c'est un enseignement qu'on a eu quand on était en Angleterre, mais je le vois se répéter et répéter à chaque fois qu'on se réunit et qu'on loue Dieu. Au début, on est vraiment là à proclamer les louanges de Dieu, proclamer qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Et des fois, franchement, soyons honnêtes, des fois, on n'a pas le cœur à ça. On n'a pas le goût des fois de... Mais pétard, on se dit, bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et alors qu'on fait ça... Il y a l'esprit d'adoration qui vient. Et là, nos cœurs, c'est comme si, ça y est, vous savez, au début, c'est un peu dur de tirer sur la tronçonneuse pour la démarrer, mais dès que c'est parti, le moteur se met en route. Et là, l'esprit d'adoration. Et nos cœurs adorent Dieu. Et c'est quelque chose qui devient naturel. Et alors que nous sommes dans l'adoration, Dieu fait descendre sa gloire. Et c'est là que le poids de la gloire de Dieu peut se faire ressentir. Et je dis, c'est pas, on n'est pas des consommateurs froids, je veux dire. On est dans une relation avec Dieu, c'est notre papa. Mais il a décidé, lui a choisi de nous donner sa gloire. Ne nous en privons pas, les amis. Que personne, oui, merci Olivier, ne se prive, c'est la grâce, de la grâce. Mais ça marche pour la gloire aussi. Que personne ne se prive de la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord pour qu'on vive la gloire de Dieu cette année ensemble ? Dans la gloire et qu'on la donne aussi autour de nous ? Amen. Alors si on est d'accord, ça va. Ou sinon, vous pouvez quitter l'église, il n'y a pas de problème. Ah là là, la connexion. Donc gloire, puis connexion. Il ne vous a pas échappé que l'église s'appelle Connect. Et pourquoi ce nom ? Je ne me rappelle plus exactement quand est-ce qu'on l'a décidé, mais il y avait cette idée d'être connecté à Dieu et d'être connecté les uns aux autres. Et j'ai lu un livre qui s'appelle Keep Your Love On. Je ne me rappelle plus le titre en français, si vous le connaissez. Si, il a été traduit. Il est sorti récemment en français. J'en connais en ce moment qui le lisent en français. Il s'appelle Raviver la flamme. Entretenez la flamme. Super. Achetez ce livre. Lisez-le. Franchement, je suis prêt à vous le payer s'il ne vous bénit pas. Je vous le rembourse s'il ne vous bénit pas. Entretenez la flamme. Ça parle de choses. En fait, c'est un livre qui est très concret, en gros, sur les relations. Mais dans ce livre, au début, il y a un exemple qui est donné, un témoignage d'une famille. Et en fait, c'est un couple qui vient voir Danny Silk, donc le gars qui a écrit le livre. Et il lui dit, voilà, on a des gros problèmes avec notre fils qui est adolescent, qui fait n'importe quoi, qui est hors de contrôle, quoi. Il a des attitudes horribles, il fait des grosses bêtises, etc. Ils décrivent ça. Et au bout d'un moment, Danny, pour ceux qui le connaissent, il est assez, des fois il dit des choses, on s'attend pas à ce qu'il dit ça, mais à un moment il dit cette phrase, il regarde les gens, une fois qu'ils ont terminé de parler, il dit j'ai une question pour vous, quel est le but de votre mariage? Alors là les gens sont, enfin c'est décrit dans le livre, les gens ne comprennent pas du tout le rapport. En fait ils viennent de décrire et ils cherchent des solutions pour améliorer ses relations avec ce fils, et c'est juste parce que ils savent pas quoi répondre, en fait. Il se trouve qu'eux sont en fait en froid un peu dans leur mariage va pas si bien que ça, il se passe pas mal de choses, ils savent pas trop quoi répondre. Alors la femme dit, ah ben moi passer un temps de qualité avec mon mari de temps en temps, ou il parle d'activité en fait, si vous voulez, et il va leur faire un processus qui arrive au fait que en fait le but de leur mariage, et je pense le but de nos mariages, c'est la connexion, c'est vraiment d'être proche, d'être connecté l'un à l'autre. C'est vraiment ça le but du mariage. Si on dit oui à la personne, c'est voilà, on se promet beaucoup de choses et surtout de rester ensemble, d'être unis. On est unis par les liens du mariage, d'être connecté. Et en fait, ils ne voyaient pas du tout ça venir, ces gens, parce que c'est des choses tellement simples et tellement évidentes que des fois, on les oublie. Et en fait, beaucoup de problèmes, je pense, dans nos vies viennent de notre manque de connexion à Dieu, bien entendu. Quand on est vraiment connecté avec Dieu, connecté, branché, vous savez, avec lui, les choses sont différentes. Mais aussi même, encore une fois, dans nos relations, mari-femme, ou même dans l'amitié, et bien sûr avec nos enfants. Quand il n'y a pas cette connexion, quand il n'y a pas cette proximité, eh bien les choses... Parce qu'on est d'accord, le dessein de Dieu pour l'homme, c'est d'être en relation avec lui, et les uns avec les autres aussi. Donc quand cette relation est distendue, eh bien forcément ça marche moins bien, parce qu'on est fait pour ça. Donc, vous savez, aujourd'hui, on est hyper connectés. Je sais que c'est pour certains d'entre vous, bravo, c'est pas le cas. Mais moi, personnellement, si j'oublie mon téléphone et que je pars à droite ou à gauche, oh, pétard, il me manque quelque chose. Ça fait bizarre, quoi. J'ai l'impression que je suis déconnecté pour le coup. Il me manque quelque chose. C'est comme s'il me manquait un bras, quoi. Parce qu'on a ce besoin d'être connecté, d'être en relation. Il y a cette idée d'être vraiment en lien avec tout. Et cette connexion avec Dieu, c'est pareil. Cette connexion produit des miracles. Et quand on est proche de lui, tout est plus facile. Combien de fois on cherche des stratégies, des idées, on se creuse la tête, on dépense de l'énergie. Non, mais comment on pourrait faire ci ? Comment, nous, on le voit dans nos réunions d'église, mais comment on pourrait faire ça ? Comment on pourrait faire que les gens donnent trois fois plus leur dîme ? Comment on pourrait faire... Non, je plaisante. Comment on pourrait faire ? On cherche des stratégies et encore une fois, c'est Elodie qui nous a rappelé à ça, alors qu'on était réunis hier soir. Oui, c'était hier soir. J'ai l'impression que c'est il y a longtemps, mais c'était hier soir. Pourquoi on ne commence pas par prier ? Et après, on verra les détails pratiques. Mais souvent, quand on privilégie la connexion, comme par hasard, les solutions découlent toutes seules. Dieu nous parle, Dieu est vivant, Dieu nous parle. C'est logique. Mais vraiment, cette connexion est importante. L'exemple, mon frère m'a raconté l'exemple d'un Italien qu'il a rencontré à l'église à Bethel en Californie. Et en discutant avec lui, cet Italien qui faisait du vin. Il était dans le vin et du coup, il assemblait des différents cépages pour obtenir des crus, quoi, des bouteilles. Et cet Italien lui a dit que il avait dans sa relation avec Dieu, les choses avaient décollé. Dieu lui révélait quel cépage il devait assembler. Tel pourcentage de, par exemple, de Cabernet Sauvignon, tel pourcentage de Merlot. Bon, n'essayez pas de mêler ces deux-là ensemble parce que je pense que ça ne sera pas très bon. Mais vous voyez ce que je veux dire, dans le rouge ou dans le blanc. Quel pourcentage de chaque type de raisin, en fait, le cépage, pardon, c'est un type de raisin. Et faisant ça, obéissant à Dieu, cet Italien a gagné plus de 200 prix aux États-Unis pour son vin. Et en fait, il racontait que c'était extraordinaire, quoi. Alors que des fois, ça n'avait ni queue ni tête, en fait, les assemblages qu'il faisait. Mais voilà, quoi, quand on cherche cette connexion avec Dieu, les solutions coulent toutes seules. Notre vie est juste beaucoup plus belle. Moi, je vous ai dit que ces dernières semaines, j'avais eu des temps où c'était un peu morose, etc. Depuis quelques semaines que les choses ont évolué, j'ai vraiment l'impression d'avoir sorti la tête de l'eau. Oh là là, la vie me semble tellement plus belle. On parlait de ça une fois, des fois, on voit un brin d'herbe, on dit « Waouh, un brin d'herbe, c'est merveilleux !» On est capable de s'extasier pour le moindre petit détail. Parce que quand on est connecté au Père, c'est comme les écailles de Paul qui tombent, tout prend sens, tout devient plus beau, tout devient plus extraordinaire. Enfin bon, ça fait un petit peu monde des bisounours, ce que je dis, mais il y a de ça quand même, il y a de ça. Être connecté à Dieu, ça n'est pas du coup, en fait, un moyen, ça n'est pas, pardon, qu'un moyen, c'est aussi un but en soi. Il est dit au verset 21, « Je te demande qu'il soit un, afin qu'il soit un. Si tu peux mettre le verset 21, normalement je ne me suis pas trompé, mais c'est bien ça qu'il est écrit. « Je te demande qu'il soit un. » Et un peu plus loin, afin qu'il soit un. En fait, être uni, être connecté, c'est un moyen pour toutes les choses qu'on vient de dire, mais c'est aussi un but en soi. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour qu'on soit réunis avec lui. Donc voilà. Dieu veut être connecté avec nous, c'est son plus grand désir. C'est pour ça qu'il a donné son Fils unique, afin que tout soit un, comme tu es en moi et que je suis en toi, afin aussi que eux soient en nous. C'est ça qui est écrit. Afin que ce soit un, comme toi en Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous. Voilà. Donc que tout soit un, afin que eux soient un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la connexion à Dieu, c'est un moyen, mais c'est aussi un but et le but en soi. Donc recherchons cette connexion pour cette connexion. Ne recherchons pas cette connexion forcément pour quelque chose. Sans programme, vous savez, des fois on dit « Ah, mais il faut que je passe du temps avec Dieu ». En fait, on a du légalisme en nous, on dit « pour être un bon chrétien, il faut que je me connecte ». Non, Dieu, il ne veut pas que tu te connectes à lui pour être un bon chrétien. Il veut que tu te connectes à lui parce que tu l'aimes, et parce qu'il est ton père et que tu es son enfant. C'est le but, c'est la connexion. Le but, ce n'est pas forcément ce qui va découler de cette connexion. Il va découler plein de choses. Et il est parlé beaucoup... Donc vous voyez ce que je veux dire, recherchons cette connexion vraiment pour qui Dieu est, pas forcément pour ce que ça va nous apporter. Et Dieu nous dit qu'un des fruits de cette connexion, c'est la joie. Et quand Dieu parle de joie, le fruit de l'esprit, la joie, c'est pas juste une joie, ah ah ah, je suis heureux, tout va bien dans ma vie, on rigole, etc. Ouais, c'est cette joie-là, certes, qui est une vraie joie, mais je pense que c'est une joie beaucoup plus profonde. Une joie, vous savez, ce contentement qui permet que même dans des circonstances difficiles, on ressent un bien-être en Dieu qui est, que seul lui peut faire, qui est indescriptible. Je me rappelle discuter avec Michel par rapport à tout ce qui leur est arrivé par rapport à Simon. Et il nous le disait bien, malgré les circonstances qui étaient... Enfin, moi, je désire ne jamais vivre ce qu'ils ont vécu. C'est tellement difficile de voir son petit bout de chou comme ça sur une table d'opération si jeune, 2 mois. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus dur que de voir son enfant souffrir ? Mais au cœur de ces choses tellement difficiles, Dieu les a rencontrées. Et il y a ce contentement en Dieu, ce bien-être en Dieu qui pouvait être là et qui prend tellement plus de sens dans ces moments-là. Vous êtes d'accord ? Et ça, c'est les fruits de la connexion au Père. Oh là là, Seigneur, que chacun de nous... pareil que la gloire, ne nous contentons pas de moins de joie. recherchons la joie. C'est pas superficiel, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est notre force. On ne peut pas vivre cette vie sans la joie du Seigneur, les amis. Et dernièrement, j'accélère un peu, l'amour de son prochain. Juste pour le dernier truc que j'avais écrit, c'est vrai, sur la connexion, c'est que là, j'ai beaucoup parlé de la connexion avec Dieu, mais aussi la connexion entre frères et sœurs, entre hommes et femmes, dans l'Église, les amis, quoi, les entre nous, et que tout ce qu'on a dit là, de rechercher cette connexion, ça soit aussi vrai pour les uns avec les autres. Jésus dit dans les versets qu'on a lus, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. » Donc, il y a le plan personnel, vertical avec Dieu, Jésus, mais il y a aussi « afin qu'ils soient un ». Ça veut dire que nous tous, on est censés être un. Donc la connexion, c'est avec Dieu, mais c'est aussi les uns avec les autres. Et c'est tellement important. C'est tellement important. On continuera de développer ces choses, mais que vraiment on soit un les uns avec les autres. C'est tellement, tellement, tellement important. Dieu nous aimait. Donc ça, c'est le troisième point, l'amour de son prochain. Dieu nous aimait et vraiment nous étions pécheurs, c'est vrai, depuis la chute, nous naissons pécheurs. C'est difficile quand on voit un bébé si innocent de se dire qu'il est pécheur, mais c'est une nature humaine qui est comme ça. Et maintenant que nous sommes plus pécheurs, c'est-à-dire malheureusement nous péchons toujours et de moins en moins, avec Dieu on grandit, il y a ce processus de sanctification, donc notre nature n'est plus d'être pécheurs, mais nous sommes saints, nous sommes les enfants de Dieu, nous avons été rachetés, il y a eu la rédemption, ce qui veut dire qu'on a complètement changé de nature, si vous voulez. Notre esprit maintenant est uni à Dieu, donc nous ne sommes plus des pécheurs, mais malheureusement, nous péchons encore. Et une fois de plus, de moins en moins, parce que ça ne correspond plus à qui on est, donc logiquement, notre vie est différente. Mais malheureusement, nous péchons encore. Mais son amour n'a pas changé. Son amour avant que nous nous tournions vers lui et son amour après que nous soyons tournés vers lui, péché, beaucoup de péchés, peu de péchés, péchés graves, graves conséquences ou pas, son amour est toujours le même. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas peur du péché. Vous savez que Dieu n'a pas peur de nos péchés, aussi graves soient-ils. Dieu n'a pas de peur en lui. L'amour parfait, Dieu est amour, l'amour parfait bannit la crainte. Et il cherche toujours à être connecté avec nous. Vous savez, dans le jardin d'Éden, le premier réflexe d'Adam et Ève, une fois qu'ils ont péché, c'est de se cacher. Et c'est notre réflexe aussi quand on pêche. Notre réflexe, c'est de se cacher. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a même des choses qu'on ne dit pas à nos maris, à nos épouses. Notre réflexe, c'est toujours de cacher notre péché. Mais Dieu, son réflexe perpétuel, c'est de rechercher la connexion avec lui. Dès qu'Adam et Ève vont se cacher, Dieu va les voir et dit « Mais Adam, mais où es-tu ? » Comme si Dieu ne savait pas où était Adam. Mais Dieu sait exactement où est Adam. Mais il veut être. Il ne veut pas se satisfaire de cette distance. Dieu ne voudra jamais se satisfaire d'une quelconque distance avec toi et avec ton cœur. Ça le rend tellement triste parce qu'il t'aime tellement. Et ce scénario du jardin d'Éden se réplique dans notre quotidien. C'est vrai, on a tellement souvent tendance à vouloir se cacher. Mais Dieu n'a pas peur de notre péché. Jésus est venu sur la terre avec une mission qui nous a permis donc d'être réunis avec Dieu. Et ensuite, il nous a transmis le bâton, quoi, dans Matthieu 28. Allez, faites des nations des disciples. Je suis avec vous tous les jours. Et comme on l'a lu dans ce passage, ainsi que le monde puisse reconnaître que tu les aimes comme tu m'aimes. Dieu, le Père, nous aime comme il aime son Fils Jésus. Parce qu'on est en Christ. C'est logique. Et du coup, nous, notre mission, le premier commandement, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme et de toute notre force, et nos prochains comme nous-mêmes. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer nos prochains. Donc l'identité, vraiment, c'est important. Tout ça, c'est voilà, je vous jette ça comme ça, on y reviendra, mais c'est tellement important. Mais aussi d'aimer les autres, et même d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Parce qu'on a beau être super spirituel, connecté à Dieu, vivre les dons d'esprit, paroles de connaissance, miracles, machin, 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 si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et les disciples ont dit adieu à Jésus, ils ont dit on a fait ci, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Je ne vous ai pas connu. Jésus semble dur quand il prononce ces paroles. Mais c'est juste que si c'est pas rempli de l'amour de Dieu qu'on vit toutes ces choses-là, cela ne sert à rien, cela ne portera pas de bons fruits dans l'éternité. Les dons sans l'amour, cela ne sert à rien. Je voulais vous lire un témoignage. Désolé, j'ai un peu de retard. Eh bien, vas-y, va avec les petits, ma chérie. Dieu ne veut jamais rompre la connexion, le Père ne veut jamais rompre la connexion avec ses enfants. Voilà, c'est un peu comme ça. Merci Loïs pour cet exemple. Donc pardonnez-moi, est-ce que vous me laissez encore 5 minutes ? Je voulais le témoignage d'un ami dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Brice, et qui, alors qu'il avait une vie horrible avec des drames dans sa famille, des morts dans sa famille, très durs, Dieu l'a rencontré, Dieu l'a sauvé, et il a pu aujourd'hui devenir ce qu'il rêvait d'être. En plus d'être un businessman dans le domaine maintenant du sport, il avait à cœur ceux parmi qui il aurait en théorie pu se retrouver il y a quelques années, les prisonniers. Et aujourd'hui, il est aumônier de prison. Et je lui ai demandé un témoignage de quelque chose qu'il vit. Et voilà ce qu'il m'a envoyé. Il parle d'un homme qui s'appelle Jérôme, qui est condamné et qui est donc en prison. La première fois que je l'ai vu, il était incapable de parler. Il avait une image de lui catastrophique, dans une culpabilité totale de son acte et de laisser un garçon de 3 ans. Il n'arrivait pas à comprendre son acte et surtout qu'il avait été capable de ça. C'est un homme qui malheureusement a mis fin au jour de son épouse alors qu'il l'aimait, énormément. Il n'était pas chrétien, mais pas réfractaire non plus. Je pensais sincèrement qu'il allait faire une TS dans le premier mois. Vous savez ce que c'est. On a décidé avec 2 autres aumôniers de le suivre régulièrement. Les prisons sont tellement grandes, il y a tellement de monde dans les prisons que malheureusement les aumôniers ne peuvent pas passer du temps avec tous les prisonniers. Les premières visites étaient simples, il commençait à parler puis il pleurait. Dans cette situation, mon rôle n'a pas été de parler d'une quelconque repentance, de pardon ou de grâce. J'étais simplement là avec lui. La Bible nous dit de souffrir avec ceux qui souffrent, de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est exactement ce que je faisais. Puis vient une rencontre où il m'a demandé pourquoi j'ai voulu être aumônier. Une aubaine pour moi, car là j'ai pu lui raconter mon changement de vie, cet amour qui m'a impacté, mon cœur d'orphelin restauré, et pour faire court, cette envie de partager cette grâce auprès des cœurs brisés. Et j'ai pu prier pour lui, comme à chaque fois, mais une fois ses larmes séchées, alors que je fermais la porte, il m'a dit « Brice, je veux me battre. Mon fils a besoin d'un papa, et je crois que Dieu va m'aider de toute façon, j'ai trop besoin de lui. » Je ne peux pas vous raconter toutes les étapes que j'ai connues avec lui, mais aujourd'hui Jérôme est un Barnabas à la prison. Il ne peut pas s'empêcher d'encourager un détenu qui souffre, de s'engager à prier pour lui, de laisser des mots de bienveillance dans certaines cellules. Encore cette semaine, il a écrit à un ancien co-détenu, à lui qui est parti dans une autre prison. Il l'a décidé. Il veut faire le bien autour de lui. Pour la petite histoire, une fois je rentre dans sa cellule et juste après me dire bonjour, il me dit « Brice, il faut que je te demande pardon ». Alors moi, étonné, je lui ai demandé pourquoi et il me dit « En fait, j'ai réalisé un truc, on est super égoïstes, nous les détenus. On est là, on vous raconte nos soucis, vous prenez du temps pour nous, vous priez pour nous et nous, on vous demande jamais comment vous allez. Eh bien maintenant Brice, je m'engage à prier pour toi et ta famille ». Je pourrais te raconter, donc il me parle à moi là, Brice, je pourrais te raconter des tonnes d'anecdotes sur ce gars. Mais pour avoir du concret, je t'ai mis un courrier en pièce jointe qu'il a écrit il y a 2 mois à un autre détenu qui s'appelle Jérôme aussi et qui passait par une très grosse galère. Une fois de plus, il voulait l'encourager et lui montrer qui il était pour lui. Et le courrier fait 3 pages, mais j'ai juste sélectionné la fin. Donc c'est ce Jérôme détenu qui parle à cet autre Jérôme détenu. Merci d'être un être si simple, si précieux. En tout cas, je peux te dire que je suis heureux d'avoir trouvé quelqu'un comme toi qui peut se dire dès aujourd'hui qu'il peut compter sur moi pour traverser cette épreuve, ici ou ailleurs, car tu es et tu resteras dans mon cœur. Merci mon Gégé. Merci Seigneur pour cette rencontre et cette amitié qui durera, je l'espère, de très nombreuses années. Amen. Waouh! Et je vous ai partagé ça parce que, comme je vous ai dit, on a une mission
Et si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Excusez-moi. Que vraiment l'amour de Dieu soit au centre de notre mission. On a une mission, Dieu nous a équipés. Olivier, Luc, Marion, Dieu nous a façonnés. La mission qu'il a pour nous, ce n'est pas quelque chose de relou, de pénible, pour lequel on n'est pas fait. Non, Dieu t'a fait pour ça, il a mis tout ça dans ton cœur. Découvre-le, certains l'ont découvert, d'autres sont en train. Continue à persévérer. Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi Dieu t'a créé? Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans des choses en plus de ton travail, ça peut être tellement de choses. Mais on a une mission, un homme comme ça qui a été transformé par Dieu. Imaginez l'impact dans les prisons. Ça se passe à Valence, à une demi-heure de chez nous. Et je voulais rajouter une petite citation de Danny Silk issue du même livre. Beaucoup de gens pensent que s'ils utilisent leurs dons spirituels, c'est qu'ils doivent avoir une relation avec Dieu. Mais les dons peuvent être utilisés en dehors de la connexion. Les dons peuvent être utilisés sans amour. Le signe que tu as une relation avec Jésus est que tu aimes les gens. Voilà. Voilà le signe. Et moi, franchement, des fois, je me sens dépourvu d'amour pour des gens. Et des fois, c'est dur, parce que même dans mon boulot, je suis infirmier, des fois, je vois des papis, des mamies que je vois tous les jours, depuis des années, parce qu'on fait des soins voilà, qu'il faut faire quotidiennement. Et des fois, je me sens dépourvu d'amour pour eux. Et là, je demande pardon, je dis, Seigneur, non, je ne veux pas m'occuper de cette personne sans amour pour elle. Parce qu'on peut faire, plein de choses, on peut être un bon chrétien en façade, sans amour. Mais les amis, ça ne sert à rien. Donc, quelle est ta mission? Pourquoi es-tu sur terre? As-tu trouvé le sens de ta vie? Autre, bien sûr, que d'être enfant de Dieu. Et je ne veux pas vous mettre de pression, les amis. Mais il y a quand même une pression, parce que la vie est courte. Et bien sûr, on aura l'éternité pour se réjouir avec Dieu. Mais l'unique privilège de vivre ces choses, malgré les choses difficiles qui peuvent se passer, c'est aujourd'hui et maintenant, sur la terre. C'est nous, les adultes, mais pour les enfants aussi. Il peut se passer tellement de choses dans la vie. Un petit Timon qui aussi, vous savez ce qu'il a vécu avec son vélo qui s'est fait renverser. La vie est jonchée d'événements, on ne maîtrise pas grand-chose. En fait, la seule chose qu'on maîtrise, c'est l'amour de Dieu pour nous et l'amour de Dieu qu'on peut donner aux autres. Dieu est tellement bon avec nous. Pareil, on était en vacances, Loïs, alors qu'on traversait une rue à Annecy, une rue très passante avec beaucoup de voitures. Loïs, au milieu de la rue, je ne sais pas pourquoi, monte sur la barrière. Vous savez, le passage clouté était coupé en deux. Monte sur la barrière et elle décide de sauter en arrière de la barrière au moment où une voiture arrivait à 50 à l'heure. En un instant, tout peut s'arrêter. Donc les amis, franchement, ce n'est pas une pression que je veux vous mettre, mais le Saint-Esprit nous met sa douce pression. Il nous convainc. Est-ce qu'on peut se lever pour terminer? Merci Jésus. Ton amour, Seigneur, est la raison pour laquelle nous nous tenons ici aujourd'hui. Aide-nous à ne pas le galvauder. Aide-moi à ne pas le galvauder, Seigneur, pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent, Seigneur. Pour ma famille en premier lieu, pour mes amis, pour mon église, pour les gens que je croise au quotidien. Aide-moi, Seigneur, comme un Matthias, à ne pas juste aller à Carrefour pour faire mes courses, mais à sans cesse être en alerte, avoir cette flamme ravivée en moi, Seigneur. Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on doit se forcer chaque jour, tac, ne plus vivre et vouloir être dans le faire, non. Mais Seigneur, tu nous as envoyés dans le monde avec une mission. Aide-nous à avoir la sagesse, mais aussi le courage, Seigneur, d'aller, Seigneur, faire des nations des disciples à ta manière, Seigneur, c'est-à-dire une personne après une autre. Une personne après une autre. Seigneur, aide-nous à être connectés avec toi. Et je voulais, c'est pas grand-chose, mais faisons-le quand même. J'ai parlé de ces trois points, de la gloire, d'expérimenter la gloire et de voir la gloire de Dieu, de cette connexion et de cet amour. Si tu sens ce soir que tu as besoin d'aller plus loin dans ces trois domaines, je t'invite à lever la main maintenant. C'est pas grand-chose de lever la main, mais c'est quelque chose de lever la main. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu prends une décision et qu'il y a des fruits qui vont découler de ce pas de foi. Merci Seigneur. Seigneur, alors que nous levons la main vers toi, nous te remercions parce que c'est toi qui es la source. La source de l'amour, la source de la vie, la source de la joie, Seigneur. La source du salut. Du salut pour ce monde, Seigneur. Seigneur, tu nous as sauvés, Seigneur, pour être en connexion avec toi. mais tu ne nous as pas sauvés uniquement pour nous-mêmes, Seigneur. Tu nous as sauvés pour ce monde, tu nous as sauvés pour Montélimar. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir être en face du jardin public de Montélimar, en plein cœur de la ville, Seigneur. Comme l'épicentre, Seigneur, d'un réveil en train d'arriver. Seigneur, on a vu tellement de belles choses, y compris dans ce parc, se passer cet été. Seigneur, plus, Seigneur. Pas par nos propres efforts, par ton esprit, dans le calme et dans la confiance, Seigneur. Tu nous envoies, Seigneur. Et alors que nous débutons cette année scolaire, Seigneur, nous nous reconsacrons à toi. Merci, Seigneur, de changer certaines habitudes qu'il faut que nous changions. Tu vois, moi, j'en parlais avec certains, les heures que je pouvais perdre à écouter la radio dans ma voiture, au boulot, dans les heures. On peut passer tellement d'heures à faire tellement de choses qui sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais ne portent pas beaucoup de fruits. Seigneur, dans un monde où tout va si vite aujourd'hui, rebranche-nous à ta source. Ta source, Seigneur. Merci, Père. On t'aime tellement, Seigneur. Parce que tu nous as aimés le premier. Merci pour cette grâce, Seigneur, que même un prisonnier ayant commis d'actes, Seigneur, on n'est pas meilleur, on n'est pas meilleur que lui, Seigneur. Mais si tu peux utiliser lui pour relever des gens dans ces endroits si sombres, à combien plus forte raison, nous qui sommes là, qui faisons ce qu'on veut de nos journées, tu peux nous utiliser, Seigneur. Seigneur, je crois, Seigneur, que des appels vont naître. On parlait à midi que cette église n'était que la première d'une série, on y croit, on a la foi pour plusieurs églises. Seigneur, fais naître les appels en nous, Seigneur. Certains vont aller dans d'autres continents pour toi. Seigneur, fais naître cet appel en nous. À être connecté, à ressentir et voir ta gloire, Seigneur. Et à partager cet amour autour de nous. Je parlais d'amour, de gloire et de beauté. Merci pour la beauté, pour ta beauté, Jésus. Tu es beau, Jésus. Et nous te reflétons, Seigneur. Nous sommes beaux, nous sommes belles parce que tu es beau. Nous te reflétons, Seigneur. Tu as fait des créatures merveilleuses avec nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas garder cette beauté pour nous-mêmes, d'aller la partager. Merci, Papa. Merci, Papa. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Et alors que Jésus, ton Fils, a prononcé ces paroles, puis a été crucifié, sans nous, merci, nous n'avons pas à être crucifiés. Nous avons même peu à être persécutés. Mais Seigneur, nous décidons d'offrir nos corps en sacrifice, d'offrir nos vies en sacrifice, d'offrir notre temps en sacrifice. Merci, Père. Merci, Père. Sois élevé, sois glorifié. Tu es vivant, Jésus. Et tu le seras pour l'éternité, Seigneur. Et nous sommes vivants avec toi, Jésus. Nous sommes vivants grâce à toi, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Amen. 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 Amen, Seigneur. Amen. On va terminer là. On a vraiment un cœur pour honorer les familles avec les jeunes enfants. Il y a la rentrée demain, d'être dans la ponctualité. Mais on aura le temps ces prochains jours, ces prochains mois.